Dans toutes les traditions, on raconte des histoires, des contes. Dans le zen, l'enseignement passe souvent à travers des petites histoires qui ont valeur justement d'enseignement. Car c'est une histoire, c'est une mise en situation plutôt qu'une explication rationnelle, logique, conceptuelle, etc. Une mise en situation fait choc. Le disciple va voir le maître et demande quelle est la nature de Bouddha. Et le maître répond tout près de ta question. Petites histoires qui donnent une certaine saveur assez indicible souvent, justement de ce qu'on veut montrer. Car ce qu'on veut montrer, on ne peut pas le saisir. Alors comment le montrer si on ne peut pas le saisir conceptuellement? On ne peut pas le saisir, ni évidemment les symboles ne peuvent pas complètement le saisir non plus, mais ils sont encore des façons de nous parler de ce qu'on ne peut pas saisir, de l'indicible. Alors comment faire pour montrer l'indicible? Et toutes les traditions ont à la fois une certaine cohérence dans l'expérience, dans la compréhension, l'approche de cette expérience, et souvent aussi des histoires, des contes, des légendes, voire la vie même du Bouddha a été l'occasion de nombreuses légendes, contes, etc. Et nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, ne sommes-nous pas des êtres d'histoire, pour le meilleur et pour le pire. On se raconte des histoires, et en même temps, ces histoires sont aussi parfois une façon très précise de redérouler dans l'espace et le temps cette vie qui est la nôtre, et nous donner la possibilité aussi d'aller au-delà de l'histoire. Parfois, je montre ça dans les constellations. On est arrivé, on est né à un moment donné. D'où venons-nous? Nous avons peut-être traversé des espaces dont on ne sait rien. Et traversant ces espaces, on se trouve à un moment donné, nous voilà nés à cet endroit-là. Et en même temps, nous venons aussi de cet espace. Nous venons aussi d'un ailleurs dont nous ne savons rien et dont nous avons la quête en nous. D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Que sommes-nous? Pourquoi avons-nous atterri là précisément? Donc il y a là encore différentes façons d'approcher ces questions et d'y trouver des réponses. Voire des réponses qui peuvent rester des énigmes. Il n'est pas dit que la réponse doit être dans le petit carré de la logique rationnelle, c'est noir ou c'est blanc. Et peut-être plus on avance en sagesse, et plus finalement on accepte que les histoires soient inachevées, que l'achèvement soit une forme d'achèvement. Donc, l'intérêt de raconter des histoires, c'est aussi pour aller au-delà des histoires. Quand j'ai commencé à transmettre l'enseignement du Bouddha, j'avais des personnes en entretien, et souvent, la question dans les entretiens tournait autour de son histoire, bien sûr. On disait, est-ce que je dois parler de la pratique? Parce qu'on sépare, bien sûr, la pratique et son histoire. On se dit, pratiquer, c'est se détacher de son histoire. Mais comment se détacher de son histoire si on n'accepte pas son histoire? Il y a là un paradoxe qui parfois est une grande souffrance. Donc il est évident que nous avons besoin de vivre dans une globalité plutôt que des petits morceaux détachés, séparés de nous-mêmes qui vont nous obliger de choisir si nous sommes pratiquants. Alors, nous n'avons plus d'histoire. Nous n'avons plus d'histoire. Oui. Bah alors, pourquoi pratiquer? Etc, etc. Enfin, je vous livre un peu tout ça comme ça en vrac aussi, mais donc la grande question, c'est comment traverser notre histoire pour découvrir le Bouddha que nous sommes, et c'est en allant au bout de notre histoire aussi que nous découvrons les qualités que nous sommes. On pourrait dire, il y a l'aspect solidifié, on a parlé des tendances ce matin, on s'identifie à ces tendances, on se solidifie dans ces tendances, et ça c'est ce qu'on appellerait le niveau de l'ego, quelque sorte, c'est-à-dire tous les aspects un petit peu les plus limitants, solidifiants, si vous connaissez les six mondes avec les émotions, c'est on va dire les aspects les plus limités de nous-mêmes. Mais à travers ça, perce, on pourrait dire les qualités de la personne que nous sommes. On pourrait dire qu'on peut faire une différence entre l'ego et la personne que nous sommes. La personne qui fait que, de temps en temps, les aspirations fusent. Parfois, on est ouvert sans l'avoir voulu, etc. On a toutes sortes d'expériences. On contacte le bon fond, etc. Et puis, il y a l'enseignement qui nous parle encore de « dis, le fond est là, tu vis ça parce que le fond est là ». bien qu'il soit recouvert et voilé. Donc nous sommes, on va dire, à chaque fois dans, en quelque sorte, ces trois dimensions. Voire il y en a peut-être encore plus des dimensions de ce que nous sommes. Nous voguons dans ces dimensions. Et pratiquer, c'est commencer à se dire, oh mais, je ne suis pas que cette solidification à mon histoire, etc., et à toutes mes impossibilités et mes ressentiments, etc. Il y a aussi une personne, aussi des qualités. D'ailleurs, l'avantage en français, c'est que personne, c'est personne. C'est un avantage. C'est-à-dire, quand je commence à être un peu plus transparent, un peu moins solidifié, un peu plus bienveillant envers l'ensemble de mon expérience, alors il y a des qualités qui fusent. Formidable, il n'y a pas à les fabriquer, elles sont déjà là. Et même, l'enseignement du Bouddha nous dit, et même, c'est tout à fait naturel, parce que c'est ce que tu es dans le fond. Et là, plus on dévoile, plus on dissout ce qui nous cristallise en quelque sorte, et plus on laisse être, qu'est-ce qu'on laisse être ? C'est l'ensemble de ces qualités qui peuvent s'exprimer. Donc, pratiquer, ça n'est pas renoncer à ce que l'on est, puisqu'on est un ensemble de qualités. Vous voyez, renoncer à votre ego, dans un certain point de vue. Non, prenons-le comme, qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans ? Et donc, il y a des qualités, et ces qualités, c'est notre nature de Bouddha, avec la couleur qui est la vôtre. De même qu'on est, on a les yeux bleus, marrons ou verts, on est grand, petit, on aime ci, on aime le sport, on préfère rester enfermé dans sa grotte. Toute cette diversité est l'expression de la nature de Bouddha. Ce n'est pas formidable ? Or, parfois, on aborde l'éveil avec, comme si, passant de l'ego, de la petite personne qu'on est, on va être l'ego éveillé. Oh, c'est beau, un ego éveillé. C'est un peu ça. Or, ça n'a rien à voir avec ça, en fait. Et en acceptant donc pleinement notre expérience, à partir des tendances qui sont les nôtres, en apprenant à les reconnaître, etc., on apprend aussi à reconnaître qu'il y a des qualités en nous qui fusent dès qu'on est un peu plus transparent, un peu plus ouvert, un peu moins solidifié. Et que même, c'est notre nature profonde, et ça, ça peut nous donner vraiment confiance dans l'enseignement. Donc, travailler sur l'histoire, c'est pour aller au-delà de l'histoire, bien sûr. Mais aller au-delà de l'histoire, en niant avoir une histoire, c'est qu'on disait ce matin, tout ça, on le met sous le coussin, là. Oui. Après, on se dit, ça fait des années que je pratique, et soudain, on rencontre des situations, et on n'arrive pas, et on ne comprend pas. Parce que c'est... Ce qu'on comprend intellectuellement, ce que je me suis aperçu, c'est le défaut un petit peu, c'est occidentaux, ce qu'on comprend intellectuellement, on ne le vit pas forcément. C'est pour ça que ce qu'on nous dit, on le sait déjà, qu'on est d'accord. Même ça pourrait paraître, bon, c'est rien de neuf sous le soleil, mais la différence c'est, est-ce que je le vis vraiment ? Est-ce que ça me transforme vraiment ? Donc, l'enseignement est toujours une façon de rappeler, voilà, comment mieux reconnaître encore, comment... voir des points aveugles que je n'avais pas vus, etc., etc. Donc, pour nous qui sommes aussi des... en tant que notre culture occidentale, on est tout à fait habitué à lire, on est habitué à comment dire, aimer aussi l'expérience des uns et des autres, les histoires, les biographies, etc. Donc, bon, je ne veux pas faire l'histoire de la culture occidentale, mais on a aussi relégué parfois certaines approches comme étant des approches sous, genre les contes, etc., ou les mythes. C'est devenu un petit peu un domaine qui a perdu de sa valeur de transmission d'expérience et d'intelligence symbolique. On a privilégié certains modes d'approche au détriment d'autres. Ce qui fait que quand on arrive dans une tradition... qui, elle, nous redonne alors cet éclat un peu, cet éclat de, quand vous lisez la littérature du Mahayana, hein, du grand véhicule, si vous lisez les textes, alors c'est foisonnant d'histoires de souhaits, de magie, on fait des souhaits de transformation, ça ressemble à la baguette de la fée. Hein, c'est... Alors pourquoi, soudain, on pratique comme ça, parce qu'on arrive à lire des textes, puis alors c'est foisonnant, c'est riche, c'est abondant. Alors des personnes, soit ne comprennent pas, soit passe à côté du sens. Pourquoi il y a cette prolifération ? Parce que c'est une littérature du cœur, c'est une littérature des relations, c'est une littérature qui, comment dire, il y a l'aspect direct, puis il y a l'aspect foisonnant aussi. C'est aussi l'expression d'une certaine énergie. Donc développer ça, une fois qu'on est là-dedans, bah, c'est comme si on cheminait un petit peu à travers la magie de la transformation. Et cet aspect aussi, la magie c'est quoi? C'est de façon très ordinaire, comment dans l'instant on peut lâcher tout ce à quoi on s'est identifié. Et ça, le côté magique. Ouais. Mais on peut lâcher aussi le concept pour tomber dans le cœur. On peut toujours lâcher quelque chose. Qu'est-ce que je peux lâcher là, hein, pour expérimenter une autre dimension? En fait, on est des êtres de multidimensionnels. La multidimensionnalité de l'expérience. Alors je sais que ça n'est pas con, souvent quand on lit la littérature des enseignants, des personnes disent « Oh là, les histoires, il faut laisser tomber les histoires, etc. » Ben moi, je dis l'inverse. Non, ne laissons pas tomber les histoires. Moi, je les reprends. Donc, à côté de l'enseignement, je me suis intéressée. Un jour, on m'a mis un livre de contes dans les mains. J'ai dit « Ah ben tiens, bon, ben voilà. » Et l'aventure est partie comme ça. Et finalement, je me suis rendu compte que m'adressant à divers publics, à des gens qui sont venus directement par l'enseignement donc à ce que je transmettais, et d'autres qui sont venus par d'autres approches, soit par les contes, l'écriture, etc., et qui sont venus à l'enseignement aussi. Il y a plusieurs chemins pour arriver au cœur de ce que nous sommes. Quelqu'un disait tout à l'heure, et c'est une très belle formule, on s'enrichit, c'est-à-dire on amène de l'ouverture à l'ouverture. Un enseignement, c'est une formidable ouverture. Les contes, c'est une ouverture encore supplémentaire à cette expérience. C'est encore une autre ouverture. Et notre esprit est ouvert, au sens même curieux, on s'intéresse à différentes choses. Il faut le voir non pas comme un syncrétisme, comme une confusion, mais comme on rajoute encore de l'ouverture à l'ouverture. C'est des angles différents, des points de vue différents, et soudain on fait « Ah oui, alors ?» Tout soudain, on a compris quelque chose. En fait, c'est ça l'idée. Donc, c'est l'heure du conte, en général, après le repas. Vous savez bien, pratiquer après le repas, bon, on sait ce qu'il en est, on s'endort, on somnole, etc. Donc, pourquoi nous faire souffrir, c'est inutile. Bon, tout à fait, remplacer ce moment-là par autre chose. Donc, dès qu'on annonce qu'on va lire un conte, ah, immédiatement se sent près du feu dans la chaumière. Et je ne sais pas si vous vous rappelez avoir été bercé d'histoire dans votre enfance, ou tout au moins d'avoir plus ou moins entendu, enfin en tout cas, même si on n'y a pas eu accès directement, on est quand même imprégné de cela. D'où il y a parfois un plaisir à redécouvrir ce grand patrimoine de l'humanité, vraiment très très riche, que sont les contes, aussi bien à niveau universel qu'à niveau régional. Donc on a montré aussi que des thématiques de contes, on les retrouvait dans tous les pays, que Cendrillon, il y avait une version égyptienne, enfin évidemment. Enfin, alors souvent on les appréhendait aussi, si on a des enfants, à travers un petit peu les histoires de Disney. Alors, là encore, retrouver le conte, c'est retrouver aussi une parole, le mensonge vrai. Parce qu'après tout, qu'est-ce que la réalité si ce n'est un mensonge vrai? C'est un peu paradoxal, mais là aussi. D'ailleurs, on raconte des histoires, ce sont des histoires, mais pour essayer de faire passer une vérité qui ne peut pas se dire autrement. Alors, il faut se méfier des versions édulcorées ou des versions trop moralisatrices. Bon, il y a certains contes, vraiment, la morale, c'est bon, ça fait plop à la fin. Oh, ben, si c'est pour dire ça. Alors que des contes, il y en a vraiment toutes sortes. Donc la parole peut vraiment être libre à différents niveaux. Donc ici, je vous lis un conte qui est extrait de « Femmes qui courent avec les loups » de Clarissa Pinkola Estes, qui est une conteuse thérapeute. Donc c'est un livre très, très... qu'on peut lire et relire d'ailleurs. Je m'en suis inspirée pour les contes aussi qui sont dedans, qui sont très bien traduits, très beaux contes. Et à chaque fois, avec un conte, on le redécouvre, on en redécouvre, on va dire, toujours un autre aspect se montre. C'est vivant, le conte. D'ailleurs, c'est une caractéristique des conteurs, il y a même des conteurs qui ne veulent surtout pas qu'on explique un conte, parce que le conte est vivant, et c'est vrai que quand quelqu'un incarne, c'est un conteur, il incarne l'histoire, hein, et on part avec lui, hein, c'est ça. Donc l'histoire, là, c'est l'histoire d'un quelque chose qui s'est passé à un moment donné, on part, parce que si on ne partait pas, il n'y aurait pas d'histoire. Donc on est né, puis à partir du moment où on est né, ensuite, on commence à partir. À l'école, des gens s'éloignent un petit peu, marche, on s'éloigne comme ça, et on va, on fait sa vie comme ça. Puis alors, il y a des étapes, on va, puis on revient quand même, parce que finalement, on va revenir au point de départ, qui sera aussi, donc, en quelque sorte, un autre passage. Hein. Nous sommes des passants, comme le rappelle l'enseignement, faisons que passer d'une histoire à une autre, espérons que l'histoire soit moins douloureuse possible au moment de la mort, donc on prépare aussi une autre histoire, quelque part. Hein? Cette précieuse existence humaine, c'est aussi une existence, donc, d'accepter l'histoire pour aller au-delà de l'histoire. Et aller au-delà de l'histoire, c'est déjà ce qu'on fait quand on tire le son de son expérience. Hein, vous l'avez tous déjà plus ou moins fait. Vous savez, vous vivez quelque chose de difficile, puis quelques temps après, souvent, c'est ce que l'on fait. On fait un petit bilan... Ça se fait tout seul, en fait. Tout d'un coup, on dit « Ah, avant, je voyais ça comme ça. Ah, mais ça m'a amené là. Ah, ben, si je n'avais pas vécu ça, je ne serais pas arrivé là, etc. Hein? » Donc, on a tous notre façon de relire notre histoire. Et c'est ça qui est beau aussi. C'est que ce n'est pas figé, une histoire. C'est qu'on peut aussi la vivre autrement, son histoire. Et l'enseignement, la pratique de la méditation nous amène à lire notre histoire autrement. Hein? C'est ça. Déjà, en l'acceptant, on la voit différemment, son histoire. Et ça nous permet aussi de rester humain. Combien de personnes, hein, souvent, ne tenant pas compte de cette dimension, eh bien, tout devient plus ou moins abstrait. Hein. C'est-à-dire, évidemment, qu'on est, si on pratique, confronté à ces difficultés sont liées à notre histoire. Fondamentalement, les tendances sont les mêmes chez tout le monde, mais on n'en est pas tous au même moment de notre vie, on n'est pas tous au même moment, etc. D'où l'importance parfois de poser des questions spécifiques, d'être accompagné, parce que ce qui nous questionne à un moment donné, notre question n'est pas celle de notre voisin, etc. Et donc, ça résonne différemment. Un enseignement résonne différemment selon le moment où on en est de sa vie. Si vous avez des questions par rapport à ça, vous pourrez poser. Je veux simplement vous expliquer pourquoi en tant que lama ou enseignante aussi de la voix du Bouddha, son aspect traditionnel, il est toujours nécessaire néanmoins de tenir compte à qui on s'adresse et où nous sommes. Donc nous sommes là encore des occidentaux avec une certaine mentalité, une certaine histoire, une certaine culture, et ça n'est pas rien. Notre terrain n'est pas vierge. Donc où est-ce qu'on peut cibler pour faire des passerelles, on va dire, des passerelles cultiver le terreau pour que les graines qui viennent d'ailleurs prennent. Si on ne cultive pas bien son terreau, les graines, non seulement elles risquent de ne pas prendre, mais surtout on risque d'avoir des visions erronées, comme on dit dans le Dharma, c'est-à-dire des visions qui ne sont pas les bonnes. Et ça, c'est une grande question, c'est assez complexe. Donc nous sommes des enseignants-chercheurs. Les lamas actuels, c'est ça, des enseignants qui cherche aussi, essaie d'ouvrir des portes, encore plus de portes, pour encore mieux intégrer la pratique. Alors, le conte que je vais vous lire, eh bien, comment on écoute un conte, hein, comment on écoute un enseignement, c'est un peu la même chose d'ailleurs. On peut être un bol retourné, on peut être un bol sale, on peut être un bol percé, ça rentre là. Bon. Et là, très simplement, c'est-à-dire, laissez-vous toucher par les images, par les sensations, les émotions que vous ressentez au fur et à mesure du conte. C'est un peu comme un voyage, un conte, on part et on se laisse aller, c'est un côté aussi de détente agréable. Je ne sais pas si vous aimez ça, qu'on vous lise des histoires, et en tant que vous n'avez pas lu d'histoire. Dans les groupes, quand on dit c'est le moment du corps, tout le monde s'installe. Personne n'a l'habitude. Salon, je pourrais écouter l'histoire, etc. Mais...